Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Alice Milo et Charlie Dupiau ont créé il y a 5 ans un podcast de lettres sonores qui s'appelle Post-Scriptum. C'est comme ça qu'elles ont rencontré Lorraine en réalisant un épisode sur les dons d'organes intitulé « Chair d'honneur ». Car Lorraine, à l'âge de 25 ans, a reçu 3 greffes, 2 greffes de cœur et une greffe de rein. C'est une miraculée qui a ensuite intégré une grande banque où elle s'occupe de relations internationales. C'est aussi une femme très belle, une bombe, un canon. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler avec elle aujourd'hui, ni de son travail, de sa beauté ou de ses greffes. Car il y a 2 ans, alors qu'elle fêtait ses 36 ans, Lorraine a appris qu'elle était en train de perdre la vue. Le temps qui lui reste à voir est incertain, mais la perte est inévitable et sera irrémédiable. C'est ce chemin vers le noir et la façon dont elle le prépare, ce temps qui lui reste à voir et ce qu'elle en fait, ce qu'elle va essayer de graver dans sa mémoire, ce sont toutes ces étapes que Charlie et Alice ont alors décidé d'accompagner. Tout de suite donc, pour les pieds sur terre, un premier épisode d'une série que nous avons appelée Lorraine Anyways, bientôt le noir.
Souvent, on fait la liste de toutes les choses qu'on aime faire dans la vie. Des petites choses simples, genre s'asseoir à une terrasse de café, regarder les gens passer, me regarder dans un miroir et me dire « Oh là là, je suis canon aujourd'hui, trop cool, je vais tous les bouffer. » Regarder les gens qu'on aime, voir l'expression du visage de mon frère ou de ma sœur, ce qu'ils veulent dire et piquer un fou rire. Regarder un paysage... Avoir une lumière du soir qui s'apaise l'été et que tu trouves belle. Et je me dis que parmi toutes ces choses toutes simples de la vie là, que j'aime, il y a quand même 70% qui sont accessibles par la vue. Et ça me fait paniquer parce que je me dis merde, où est-ce que je vais trouver de la beauté? Comment est-ce que je vais l'atteindre? Du coup, ouais, c'est un peu la panique à bord, hein, putain. Pff, oh là là. En 2019, je commençais à me plaindre de ma vue et puis on m'a dit que j'avais une cataracte. Donc la cataracte, c'est ou pour les personnes âgées, mais ça peut aussi arriver quand on prend beaucoup de cortisone dans sa vie. Mais comme j'ai eu 3 greffes en 13 mois, j'ai eu beaucoup de cortisone à haute dose. Et donc là, une fois que j'ai été opérée de la cataracte, 2 fois, donc pour la première et la cataracte secondaire, on pensait que je devrais récupérer une vue correcte avec ma correction de lunettes. Seulement, je continuais de me plaindre en disant « je vois toujours pas mieux, je vois toujours pas mieux ». Et je voyais que les médecins étaient un peu désespérés. Ils disaient « mais nous emmerde celle-là ». Parce que je voyais pas mieux et qu'ils avaient fait tout pour que je voie, donc en fait ils comprenaient pas. Et puis le Covid est arrivé, j'ai pas eu d'examen pendant 6 mois, à ma grande joie, hein, j'étais très contente de pas aller à l'hôpital, seulement en fait si j'y avais été, on se serait peut-être rendu compte que je perdais la vue sur les côtés. Et effectivement, jusque-là, tous les examens qu'ils me faisaient, ils me faisaient des examens de champ visuel central, donc ils voyaient pas que je perdais la vue sur les côtés. Et donc moi, ma sensation de mal voir, elle venait de là, en fait. Après pas mal de recherches, en 2021, ils se sont rendus compte que j'avais une rétinopathie auto-immune, une destruction de la rétine, une maladie de la rétine, hein, rétinopathie, et auto-immune fabriquée par mon système immunitaire. Donc, grosse claquade, quand même. Depuis 2019... Je suis sous traitement, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de traitements jusqu'en mars 2022. Ils ont essayé tous les immunosuppresseurs possibles et imaginables, tous les traitements possibles et imaginables pour essayer de ralentir l'avancée de cette maladie auto-immune qui détruit ma rétine, en fait. Et après 3 ans de traitement, donc entre 2019 et 2022, on m'a annoncé que j'allais être aveugle. Carrément. je vais être aveugle dans les 2 à 3 ans qui arrivent. Et je me prépare pour le grand saut dans le noir, quoi. Lorsqu'ils me l'ont annoncé, il me restait déjà plus que 10 degrés de champ visuel, 12, sur 180-200. Et là, à l'heure où on se parle, un an après l'annonce de qu'il n'y avait plus de traitement possible pour moi et que j'allais perdre la vue, il me reste 3 degrés à l'œil droit et 6 degrés à l'œil gauche.
Là, par exemple, tu vois quoi de moi ?
Là, étant donné qu'on est à 50 cm l'une de l'autre, je vois tes yeux, ton front, je vois pas si t'as des cheveux ou pas, quoi. En fait, je peux me lever demain matin et avoir perdu un œil. J'ai aucune idée de quand est-ce que je vais plus voir. Et je ne sais pas de quelle manière est-ce que je vais continuer à percevoir la lumière, par exemple. J'ai eu des phases de grande terreur, en fait, de la sensation de tomber dans un précipice, de tomber dans le vide. Là, vraiment, j'ai l'impression de vivre un truc complètement abyssal. Bon, tu te dis que c'est pas possible. Tu penses que tu vas perdre ton autonomie, en fait. C'est la première chose qui m'est venue en tête, je vais être dépendante. Je vais faire porter ça, du coup, à ma famille, à mon futur conjoint, bref, dépendance, quoi. Après, j'ai pensé au visage des gens que j'aime, je vais pas les voir vieillir. Mon frère a eu un petit garçon, j'ai peur de jamais savoir à quoi il ressemble. Et puis, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont perdu la vue, et ils ont tous eu une phase de dépression. Ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, avec un an de recul, quoi, vis-à-vis de l'annonce, c'est d'être triste, en fait, et de pas réussir à rester heureuse. Parce que je crois que tu le maîtrises pas. Moi, jusqu'ici, j'ai jamais fait de dépression. J'ai eu des moments de déprime, évidemment. Hein. J'ai des moments de déprime. Il y a des jours où je fous rien dans mon canapé pendant 2 jours, où je suis une larve et je me dis « Ah, ma vie, c'est foutu !» C'est fini, voilà, où j'ai beaucoup de tristesse. Mais en règle générale, quand même, je suis heureuse de vivre malgré tout. Et la plupart des personnes qui sont aveugles, que j'ai rencontrées, elles sont très heureuses aujourd'hui. Mais elles sont passées par une phase de déprime. C'est ce qui me fait le plus peur dans le fait de perdre la vue. Si on me disait, t'inquiète pas, tu vas perdre la vue, mais tu vas pas faire de dépression, ça irait. Et puis cette espèce de peur du noir qui est dans l'inconscient collectif, il y a un truc autour du noir, quoi. Non ? Enfin, je sais pas. Et donc rapidement, je me suis dit, ok, donc ça y est, c'est officiel, tu vas perdre la vue, tu n'as plus de levier là-dessus. J'ai mis du temps à accepter que ma réalité et mes rêves ne se rencontraient pas, en fait. Donc, comme tu peux pas changer ta réalité, t'es obligé de changer tes rêves.
C'était quoi tes rêves ?
Moi, d'avoir une vie banale. Genre vraiment le truc le plus basique que tu peux imaginer. Bah, moi, je voulais ça, moi. Tu vois ? Genre mettre ma petite robe, mes petits talons pour aller au boulot le matin, faire mes petits PowerPoint, faire mes présentations, et puis rentrer le soir chez toi et te demander ce que tu vas bouffer, quoi. Il y en a d'autres qui doivent se dire en m'écoutant, ah, mais c'est horrible ce qu'elle décrit comme vie, on n'a pas envie de ça, on a envie d'excitation et tout. Mais en fait, moi, je crois que j'ai eu ma dose de peur, d'excitation, de montagne russe pour le reste de mes jours, en fait, là. Donc moi, je rêvais d'une vie douce, en fait. Voilà, de partir un peu à la mer l'été, un peu à la montagne l'hiver, de bouffer de la raclette et enfin, je sais pas, un truc tout doux, quoi. D'essayer d'avoir un enfant, voilà, c'était ça mon rêve de vie, c'est ça, ouais. D'essayer de me faire un beau voyage tous les 2 ans, c'était ça mon rêve. Et du coup, pas du tout. mon rêve de vie douce et normale s'est envolé avec mes yeux. Je me suis dit, ok, sur quoi tu as du pouvoir ? Quels sont les rêves qui te font quand même vibrer et qui sont compatibles avec ta vie aujourd'hui ? Et donc j'ai décidé de lancer une cagnotte auprès de tous mes proches, de toute ma famille, enfin sur les réseaux sociaux. Et j'ai en 3 semaines récolté une somme d'argent suffisante pour pouvoir réaliser presque tous les voyages que j'avais en tête. et pour pouvoir aussi m'équiper et faire les aménagements nécessaires dans mon appartement. Donc grâce à cette cagnotte, cette année, j'ai visité 11 pays en une année. Pour l'instant, j'ai été en Norvège, en Israël, en Jordanie, au Kenya, en Martinique, à Budapest, en Toscane. Donc je perds la vue en voyant toutes les merveilles du monde, donc c'est cool. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est joli, comme façon de perdre la vue, quoi. Le premier voyage que j'ai fait, je suis partie en Égypte. Et là, je me suis pris une énorme claque face à ces pyramides, face à ces tombeaux, face à cette histoire incroyable de ce peuple qui vivait il y a 7000 ans, qui a remis ma vie à sa juste place, en fait, sur l'échelle de l'humanité. J'en avais vraiment besoin. Parce que, tu sais, tu t'enfonces un peu, tu te dis effectivement qu'il t'arrive que des merdes, et puis après, tu réalises qu'en fait, à l'échelle du temps et à l'échelle de l'humanité, ma vie à moi, elle est pas grand-chose, et ma souffrance aussi, pas grand-chose. C'est pas pour minimiser ce que je vis, mais c'est pour la remettre à sa place. C'est comme si le poids de l'histoire m'avait écrasée, mais que ça m'avait soulagée. Après, je vais aller à Bali, je vais aller voir des aurores boréales, je vais aller à Québec voir les baleines, je vais aller faire la côte ouest des États-Unis et je voudrais aller en Amérique latine pendant un mois. Et puis, en Jordanie, le désert du Wadi Rum, ça m'a donné envie de partir faire un trek dans le désert. Mais du coup, là, il va falloir quand même que je me manie, quoi, parce que je crois pas que je vais avoir le temps de faire tout ça d'ici. Mais à la limite, je pense que le désert, ça peut se vivre en étant aveugle. Enfin, de toute façon, tout peut se vivre en étant aveugle. C'est débile ce que je dis. Mais je pense que tu peux ressentir la puissance de ce silence et peut-être de manière encore plus intense. Je sais pas, je vous dirai. J'y suis pas encore, le plus tard possible, mais je vous dirai. En fait, je suis vraiment mes envies, quoi. Et aussi les emplois du temps de mes potes, parce que pour l'instant, je voyage pas toute seule, vraiment. Même si en Martinique, je suis restée une semaine seule, j'avais passé une semaine avant avec mes amis, donc j'avais repéré les lieux, compté les marches qui me menaient jusqu'au bungalow qu'on avait loué. Donc je savais exactement où j'étais. J'avais tout appris par cœur, j'étais capable de me déplacer les yeux fermés dans la résidence. Mais je me sens pas encore de voyager toute seule dans un endroit que j'ai pas apprivoisé en amont. Le but, c'est d'avoir un catalogue d'images incroyables, de moments de beauté, et de pouvoir les ressortir quand j'en aurai besoin, quand j'aurai des coups de mou, des moments de déprime ou de doute, puisque forcément, quand tu perds la vue, c'est pas smooth, hein. Deux, un que je mets au coffre et un que je garderai pour moi, et c'est donc un Pantone avec plein de couleurs. Il y en a 2000. Un Pantone de couleurs, c'est un nuancier en fait de couleurs, c'est-à-dire que c'est un éventail de couleurs, et là normalement j'ai à peu près toutes les couleurs qui existent. Ça va me permettre de pouvoir les annoter en fonction des souvenirs que j'ai. Par exemple, tu vois, si je prends le bleu de ma robe, là, de cette fleur, je me souviens bien de cette robe parce que c'est une robe que j'aime bien et que je mets régulièrement. Donc, dans ma mémoire, ça va être inscrit, cette couleur. Et donc, je vais aller chercher dans le Pantone le bleu qui lui ressemble. Où est-ce qu'il pourrait être? Par là, tu vois. Et je vais écrire sur la couleur qui ressemble à ma fleur, là, le nom de ma robe. Donc, bleu, fleur, robe, 29 balles. Et si un jour je vais faire les boutiques et que la vendeuse, par exemple, veut me décrire, ou le vendeur veut me décrire...
Parce que tu arriveras avec cet objet aussi. Tu arriveras avec le Pantone.
Mon objet. Et du coup, j'aurai noté dessus la description. Et donc, on saura à quoi ça correspond. Là, je suis, à mon avis, déjà en train de perdre les couleurs. Donc, en fait, c'est vraiment cet été qu'il faut que je le fasse. Donc, j'en suis pas du tout au deuil. Là, j'en suis à comment je me prépare pour pouvoir continuer à garder mon autonomie. Je me focalise sur le projet de comment adapter ma vie à la malvoyance et à ma future cécité. Et en ce moment, je suis assez focalisée sur l'apprentissage du braille, les cours de locomotion avec la canne, les cours d'accessibilité sur l'ordinateur, et puis le réaménagement de mon espace de vie.
France Culture, les pieds sur terre.
Quand j'ai des pertes de vision, donc là, comme ces 4 derniers jours, il faut que mon cerveau se réadapte et je recrée mes repères. Donc, je me prends des murs ou que je me prends de la table basse ou que je me prends mon fauteuil. Et là, du coup, je me dis, ah ok, là, mon cerveau est en train de se rééquilibrer, c'est que j'ai perdu un peu. Mais bon, je réagis même plus. Hein. Parce que mon prof de locomotion, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est, tu sais, quand t'es aveugle, il faut accepter de se cogner. J'étais là, ok, super mec. Merci. Donc, mais il a pas tort. Faut accepter de se cogner, d'avoir l'air un peu con. Mais bon, moi, je rigole toute seule. Sauf quand je tombe, là, c'est trop humiliant, je pleure. Non, mais dans la rue. Parce que moi, j'apprends, mais je suis pas encore une as de la canne. Il suffit d'un tout petit rebord pour que ta chaussure bute dedans et que tu te pètes la gueule. Hein. Mais c'est pas drôle de tomber. T'as vraiment l'impression, je trouve que c'est vraiment humiliant d'être à terre.
Il y a eu un moment de bascule au moment de mon voyage au Kenya où je repoussais le plus possible le moment où j'aurais une canne parce que c'est aux yeux de tous. C'était ma propre peur de mon identité qui change avec cette canne. Et donc je repoussais un peu ce moment-là, j'avais pas du tout envie d'y venir. Et puis je suis tombée 3 fois au Kenya parce que évidemment le soir dans les lodges, dans les safaris, c'est sombre. Je me suis fait mal 3 fois et je me suis fissuré le ménisque. Et j'étais déjà tombée 2 fois à Paris, je m'étais vraiment fait peur. Tu n'es plus capable de marcher sans tomber. Et donc en rentrant du Kenya, je me suis dit ok, c'est mon dernier voyage sans canne. J'étais aussi hyper dépendante de ma pote, pas capable de descendre un escalier sans elle parce que le soleil était tellement fort que j'étais éblouie. Enfin tu vois, j'en étais arrivée à un stade où je me suis dit ok, ça n'est plus possible, là Lorraine, il faut que tu acceptes que tu as besoin d'une canne. Et donc en rentrant, j'ai pris des cours de locomotion. Je suis tombée sur un prof vraiment génial qui m'a laissé aller à mon émotion en fait. Du coup, je me suis mise à chialer au premier cours parce que c'était trop dur quoi. Bah, c'est un pas de plus vers la cécité quoi. Et c'est vrai que la canne blanche, c'est un peu l'identité extérieure de la non-voyance. Et en Martinique, j'étais avec mes 2 meilleures amies. Et j'étais loin de Paris et je me suis dit c'est le meilleur moment en fait pour l'utiliser. De toute façon t'as pas le choix, t'es obligée. Sinon tu vas être accrochée à leurs bras tout le temps, c'est trop relou et pour elle et pour toi. Et j'étais avec mes 2 amis d'enfance qui m'ont laissé 0 chance. Hein. Premier matin elles m'ont dit Lorraine ta canne. J'étais là oui ça va. Je m'en étais servi à l'aéroport parce que hyper pratique, tu passes devant tout le monde. Là t'as plus besoin de te justifier. Là les gens voient que t'as un problème donc c'est super. C'est le seul privilège, il n'y en a pas d'autres. Et donc, premier matin, elles m'ont dit « prends ta canne ». Et en fait, dans les 30 secondes qui ont suivi l'utilisation de ma canne, je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis rendu compte à quel point elle était mon alliée, en fait, cette canne, et pas autre chose que mon alliée. Elle m'indique tout, en fait. Elle me donne toutes les indications sur les aspérités du sol, sur les marches. Tu peux pas te planter s'il y a un escalier, il y a un escalier, s'il y a un poteau, il y a un poteau, quoi. Ça m'a permis de reprendre un rythme de marche beaucoup plus assuré, parce que moi, je marche assez vite, en règle générale. Et là, je marchais lentement, et j'étais tout le temps en train de regarder mes pieds devant, puisque mon champ visuel est tellement réduit que je peux pas voir le sol et devant moi en même temps. Donc ça m'a permis de juste redresser la tête, en fait. Comme j'ai une canne blanche, les gens se disent tout de suite « elle est aveugle ». J'arrive dans le métro, je m'assieds et je sors mon téléphone. Et là, j'adore. Je regarde les réactions autour et les gens sont un peu perturbés. Ils disent « elle voit pas, c'est un sketch ou pas ?» Ça se trouve, ils me regardent pas du tout, mais du coup, je me tape des petites barres comme ça.
Là, on va prendre, sur la prochaine traversée, on va le faire avec le feu sonore.
Ah d'accord. Ah, je l'ai jamais fait.
Est-ce que tu repères le poteau là avec... Il y a un bouton en dessous.
Qu'est-ce que je dois faire? Je peux traverser là du coup?
En fait, du coup, la règle, c'est que le code est toujours le même. Quand c'est vert pour toi, c'est de la musique. Quand c'est rouge, on va te parler. Donc on va te dire rouge piéton plus le nom de la rue. C'est aussi intéressant pour te permettre de t'orienter.
Ça, c'est de la musique, ça?
C'est des notes musicales, t'appelles ça comment? Petite ritournelle.
Rouge, piéton, rue, Longier. Rouge, piéton, rue, Longier.
Ça, c'est ma chambre, ça, c'est mon placard.
J'ai fait rajouter une penderie pour que ça soit plus espacé et que je puisse plus m'y retrouver. Ah, il y a des étiquettes là aussi. Donc je m'en suis jamais servie. Hein, donc... Ah oui, mais là, il y a des signes là-dessus.
Allumé.
Ah, cool. C'est un stylo qui parle et donc j'ai plein d'étiquettes. Une fois que le stylo est posé sur l'étiquette, ça scanne l'étiquette. Et donc en appuyant sur le bouton jaune ou rouge, là, je peux enregistrer la description que je souhaite donner. Et à chaque fois que je passerai le stylo sur l'étiquette, ça me dira ce que j'ai enregistré.
Français. Nouvelle étiquette. Commencez l'enregistrement.
Robe blanche, fleur bleue, kouka.
L'enregistrement est effectué.
Alors, on va vérifier.
Robe blanche, fleur bleue, kouka.
Il faudrait que je mette un petit peu plus de peps dans ma voix, je trouve, parce que sinon t'as robe bleue, fleur, kouka. Il faudrait que je dise des trucs un peu sympas. Allez, c'est pas grave, tu vas la trouver, la robe que tu veux. Également, je pourrais me faire des petites blagues. Oublie, elle est trop petite pour toi. Tu vois. Et après, je vais l'utiliser dans la cuisine pour mes épices. Et dans la salle de bain, par exemple, j'ai des crèmes pour le visage, mais qui sont au même format.
Donc on vit à une époque où être aveugle, c'est évidemment pas drôle, pas facile, et tu perds en autonomie, mais quand même, tu peux te débrouiller grâce à la technologie. Et donc l'ordinateur, oui, j'espère pouvoir reprendre mon travail un jour. Moi, j'ai acheté une tablette, du coup, parce que c'est ce qui semble être le plus adapté. Ils ont ce qu'on appelle le voice-over. Lorsque tu passes le doigt sur ton écran, ça te dit ce qui est écrit. Après, c'est pas moi qui ferai les PowerPoints, mais tant mieux, ça m'emmerdait grave. Après, je veux faire un album pour les ciels. Pour savoir quel temps il fait. Alors après, on m'a dit oui, tu vas ressentir différemment. Bon, j'ai envie de dire à cette personne, viens là que je te crève les deux yeux, tu vas voir si tu le ressens différemment. Donc j'ai envie de me faire une bibliothèque de ciel, donc prendre en photo les ciels et dire comment est-ce que je les décris. Tu vois, parce que le ciel d'aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire oui, bah il fait gris. Bah en fait, il fait pas gris aujourd'hui. Il y a vachement de lumière. Et bah en fait, si je vois plus, j'ai envie de pouvoir le savoir. Alors, peut-être que ça va me passer, parce que ça, c'est aujourd'hui, parce que moi, mon contact avec le monde, il se joue beaucoup avec les yeux, comme tout ce qu'il voit. Quand on te dit qu'on va te l'enlever, tu te dis comment est-ce que je peux rester dans ce monde-là, quand même, tu vois. Mais peut-être que au fur et à mesure que j'aurai appris à ne pas voir, peut-être que je ressentirai les choses différemment et que j'en aurai plus en affiche. Mais au cas où j'en ai pas plus en affiche, j'aurai mon petit album, tu vois. Et pareil, après, je vais me faire un lexique de vocabulaire pour décrire des visages, des paysages. Imagine, je rencontre l'homme de ma vie et je suis déjà aveugle. Comment je sais s'il est beau? Donc tout le monde te dit, ouais, non mais c'est pas ça, attends la beauté intérieure, tu parles. Comment je sais? Donc bien sûr, je vais lui toucher, mais tu touches pas le visage d'un mec au premier date, tu vois. J'aimerais bien que quelqu'un puisse me décrire si la bouche est charnue, pulpeuse, boudeuse, pincée. Enfin voilà, j'ai envie de pouvoir continuer à avoir accès... à ma mémoire visuelle, ou enfin à ce qui est visuel, même si je vois pas. J'étais en couple, je suis restée avec ce garçon jusqu'en juillet de l'année dernière, et en fait on s'est séparés malheureusement, on s'aimait énormément l'un l'autre, mais on a été énormément secoués par mes problèmes de santé, et en fait je crois qu'à l'annonce de la perte de ma vue, lui il a été complètement chamboulé. Notre couple n'a pas tenu. Voilà. Donc horrible, parce que du coup, tu perds la vue, tu perds l'homme de ta vie en même temps. Aujourd'hui, je ne me vois plus faire un date Tinder, ou un... Bon, déjà, à mon âge, j'en ai quand même ras-le-bol. Mais je ne me vois plus arriver avec ma canne. Jusqu'ici, je pouvais cacher, en fait, et puis découvrir la personne. Et puis, si jamais elle en valait le coup, et ben dans ce cas-là, je racontais mon histoire. Là, d'arriver avec la canne, j'ai tellement peur de la réaction du garçon en face, qui pourrait déjà se barrer du rendez-vous. Et je suis trop fragile en ce moment pour pouvoir recevoir la réaction de l'autre. Me confronter à ça. Pour autant, tu vois, la première semaine où j'ai utilisé ma canne, j'étais sur la plage en Martinique, je rentrais à la location avec ma canne, et il y a un petit mec qui m'a repéré et qui m'a draguée de ouf, alors que j'avais ma canne. J'avais aussi un mini-short.
Et il m'a dragué, il m'a posé zéro question, je suis tombée sur un garçon hyper intelligent. Du coup, ça fait quand même pas mal d'écrémage, ce qui est pas plus mal. Tu tombes forcément sur quelqu'un qui a le cœur et l'esprit ouvert. J'ai accepté que ma vie était différente. Mon leitmotiv dans la vie, c'est de me dire une joie par jour et c'est gagné. Et en fait, si j'ai ma joie par jour, ben, je suis contente. Le bonheur, en fait, il peut se situer dans une tartine grillée le matin et un café au lait. Ma vie est un combat, quoi. Mais elle n'est pas que ça.
Salut les filles, merci pour votre message. Je vous réponds en toute simplicité depuis l'Acropole, où je suis en ce moment même. On profite de la fin de journée, je suis avec mon ami d'enfance. Je suis tellement contente de m'être échappée un peu de Paris et donc de ma réalité un peu là, et de voir les choses sublimes et de revoir Athènes. C'est vraiment tellement cool. Là, j'ai eu un peu du mal à monter, franchement, avec ma vue là, c'était quelque chose, mais bon, ça valait peut-être deux fois plus le coup d'être arrivée et de pouvoir admirer ce temple de fou. Bref, c'est top. Donc je me déconnecte. Donc on se voit à mon retour autour du 20 avril. Gros bisous, ciao ciao.
C'était Lorraine Anyways, bientôt Le Noir, le premier épisode d'une série à venir en 3 ou 4 épisodes, signé Charlie Dupio et Alice Milo, réalisé par Eric Lancien. Je précise qu'une partie de ce que vous avez entendu a déjà été proposée sous une autre forme dans le podcast que je vous mentionnais, qui s'appelle Post-Scriptum et que je vous recommande. Merci pour cet épisode à Camille, à Chloé et bien sûr à Lorraine. Notre attaché de production, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.